France Culture.
Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Alors que Madagascar traverse une nouvelle crise politique marquée par la fuite de son président avec l'aide de la France, une révolte portée par la génération Z et l'installation d'un pouvoir militaire se rejoue à travers ces derniers jours. Une histoire ancienne, plus de 60 ans après l'indépendance, les liens politiques, économiques et symboliques entre les deux pays restent étroits, parfois même jusqu'à la confusion. Alors derrière la colère de la jeunesse et les appels à la souveraineté, la question d'une influence française persistante revient sur le devant de la scène, ravivant une mémoire coloniale toujours sensible. Quel rôle la France joue-t-elle dans la région? Est-il possible de penser aujourd'hui une relation qui ne soit ni tutélaire ni défiante? Un invité ce soir pour nous éclairer, Samuel Sanchez. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine à Paris 1, historien spécialiste de Madagascar et de l'océan Indien. Vous avez publié en septembre dernier aux éditions Hémisphère l'ouvrage que vous avez co-dirigé et intitulé Madagascar, une approche de l'histoire par les documents. Merci d'être avec nous ce soir dans Question du soir.
Le rôle de la France se croit toujours comme le colonisateur du Madagascar. Il ne s'arrête pas de manipuler les détenteurs du pouvoir à Madagascar. Oui, c'est ça.
Alors, on n'a pas besoin des Français pour qu'ils jugent ou qu'ils fassent quoi que ce soit. On veut qu'ils dégagent, c'est notre affaire et on veut que ce soit les Malgaches qui les résoutent. En plus, c'est l'ancien colonisateur, du coup, c'est comme ils nous colonisent en fait.
Ils entrent vraiment dans nos affaires personnelles. Il n'y a plus de souveraineté d'État, les Français ils sont toujours là. Et deuxièmement, là, notre président, il a demandé sa nationalité française. Et c'était avec ça qu'il a pu partir d'ici. Donc là, les Français, vraiment, désolé de vous dire ça, ils se foutent vraiment de notre gueule.
On sent, Samuel Sanchez, dans ces trois propos recueillis par l'AFP, ces trois propos tenus par des Malgaches, un sentiment français extrêmement vif hein, et des mots très forts. On parle de colonisation, on parle d'absence de souveraineté de l'État malgache à cause de la France. On parle aussi de cette double nationalité de l'ancien président franco-malgache, on y reviendra. Quelle place ce sentiment anti-français occupe-t-il aujourd'hui dans les mouvements de la génération Z et les révoltes de ces dernières semaines ?
Oui, les témoignages sont assez éloquents parce qu'ils sont prononcés en langue française, d'une part, et ils sont pris à Antananarivo, la capitale. Ils sont assez, finalement, il y a une grande ambivalence dans le rapport à la France, à la fois, en effet, une mémoire douloureuse de l'époque coloniale, et puis, en même temps, une présence dans la francophonie, des liens très forts à beaucoup de niveaux avec la France. Donc ça, c'est cette expression-là, elle est dans cette ambivalence des relations avec la France.
Est-ce que cette ambivalence que vous décrivez est vraie de toutes les classes sociales? On lit, on entend parfois que l'élite malgache, en effet, est très francophile, qu'elle envoie ses enfants y faire ses études, qu'elle-même y a étudié, que dans le même temps, dans les classes sociales plus populaires, ce sentiment anti-français au cours des dernières décennies s'est plus développé.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans les élites malgaches, il y a des restes de l'organisation qui provient de la période coloniale, clairement, avec la présence de la langue française, avec un regard vers l'ancienne métropole, avec des investissements, des liens forts en fait avec l'ancienne métropole, dans la ruralité qui est plus de 60% de la population malgache, ce n'est pas du tout la même chose, forcément.
Il faut raconter ce qui s'est passé le 13 octobre 2025, le 13 octobre dernier, un avion militaire français parti de La Réunion s'est posé discrètement sur l'île de Sainte-Marie. À bord, le président malgache et sa famille ont été exfiltrés vers le territoire français. Concrètement, donc, l'armée française est intervenue dans les affaires malgaches pour exfiltrer le président. Comment expliquer cette situation et d'ailleurs même comment la comprendre ?
C'est vraiment, c'est le, l'acte qui révèle justement cette présence française très présente dans les hautes élites malgaches. Là, en l'occurrence, avec le président Radziwiłł, qui a la double nationalité depuis 2014-2015. Qui a été exfiltré par un avion militaire français. Donc c'est ça nous rappelle à d'autres choses. Ça nous rappelle Blaise Compaoré au Burkina en 2014. Voilà, ça rappelle des éléments d'ingérence française dans les pays d'Afrique. C'est quelque chose qui est perçu de manière catastrophique dans la société aujourd'hui, de toute façon.
Ce qui frappe par ailleurs, c'est aussi une géographie, hein, l'île de la Réunion pour point de départ, l'île de la Réunion comme ancrage de la France dans l'océan Indien. Pour accéder à une ancienne colonie, Madagascar en l'occurrence, comment vous analysez vous-même cette géographie et les forces géopolitiques qui sont intervenues ce jour-là ?
En tant qu'historien, j'ai été frappé par le fait de passer par l'île Sainte-Marie de Madagascar, qui est un des lieux les plus anciens de la présence française à Madagascar, depuis le XVIIIe siècle par intermittence, et évidemment destination de la Réunion, qui est le riverain de Madagascar, car la France dans l'océan Indien passe par l'île de la Réunion en grande partie. Cette île a été le tremplin de la France coloniale dans tout le bassin de l'océan Indien, y compris vers les Comores au XIXe siècle, par exemple. Et là, donc, c'est un peu la manifestation d'un vieux lien, qui se révèle. Donc, c'est pour un historien, c'est assez le réseau est quelque part historique, on va dire, de cette relation complexe entre la France et Madagascar.
Comment comprendre, Samuel Sanchez, que le président franco-malgache, exfiltré désormais par la France, ait souhaité prendre justement cette nationalité française alors que la loi lui interdisait le fait même d'avoir une double nationalité ?
Il y a sans doute deux choses. Je pense que chez beaucoup de malgaches de ces milieux de l'entrepreneuriat, il y a un lien fort avec la France, et puis il y a une porosité des espaces, je dirais, et une forme de pas d'évidence mais enfin de facilité à surfer entre différents espaces. Donc je pense qu'il y a ça d'abord, et puis après il y a la conjoncture politique, c'est-à-dire que Radziwiłł n'a été quand même en France au début des années 2010, après son épisode à la tête de la transition, et je pense que c'est une façon aussi de jouer d'une porte. Voilà, ça a été une façon pour l'ancien président d'avoir une porte de sortie commode. Donc ce lien avec la France, il permet à la fois de capter une forme de puissance financière, aussi symbolique, et en même temps, c'est quelque chose qui affaiblit en intérieur, donc il y a deux ressorts, je dirais, un peu qui sont en antagonisme. Et là, ça a été il l'a caché pendant plusieurs années. Donc c'est vraiment la trace que c'était quelque chose dont il savait que ça allait lui être reproché en fait.
La voix de celui dont on parle depuis le début de cette discussion, le président Radziwiłł, il s'exprimait le 23 avril dernier lors d'un déplacement officiel du président Emmanuel Macron à Madagascar.
Vous êtes le cinquième président français à visiter Madagascar. Et le deuxième a effectué une visite d'État dans notre grande île après vos prédécesseurs, les présidents Charles de Gaulle, François Mitterrand, Jacques Chirac et François Hollande. Cela marque votre volonté et engagement personnel à renforcer les liens d'amitié entre Madagascar et la France et d'accompagner les projets de transformation et de développement de Madagascar.
On sent dans ces mots, on comprend à travers ces mots, Samuel Sanchez, que la relation entre la France et Madagascar est ténue, mais qu'elle est aussi ancienne. Elle remonte cependant bien avant la colonisation. Il faut remonter même à la constitution progressive d'un État central, à la constitution progressive de l'unification politique de Madagascar. Racontez-nous justement ce moment, le moment du royaume.
Oui, alors l'île de Madagascar a connu une dynamique d'unification au cours du 19e siècle qui s'est opérée depuis Antananarivo et la capitale. Et on a ce qu'on appelle donc le royaume de Madagascar au 19e siècle. Et ce royaume s'est construit dans la maîtrise des territoires de l'île. Et c'est construit aussi dans une interaction avec l'étranger, avec les Britanniques. D'une part, voilà, qui ont introduit le protestantisme en particulier à Madagascar, et avec la France qui était présente donc à l'île de la Réunion, comme j'ai expliqué précédemment, et on a toute une série de conflits aussi, de conflits qui émaillent l'histoire de ce royaume avec la France. Le premier en 1829. Ensuite un deuxième en 1845, ensuite un autre en 1883-85 et puis un dernier en 1895 qui voit la fin de ce royaume qui est abattu par la France qui annexe Madagascar.
Ce qui est important de comprendre dans ce que vous décrivez, dans le lent processus que vous décrivez, c'est que lorsque la France annexe officiellement Madagascar, elle ne fait pas table rase d'un système politique, elle vient plutôt capter un État qui existe d'ores et déjà, un État qui a été construit précédemment à cette annexion.
Voilà, c'est un grand point de l'histoire des débuts de la colonisation de Madagascar qui a été travaillé par plusieurs historiens déjà. Mais on a des structures administratives déjà constituées, on a un État bureaucratique avec une comptabilité publique, avec un système d'administration centralisé qui préexiste à la colonisation et les Français vont un peu chausser les bottes de ce régime et vont le métamorphoser profondément, mais tout en gardant la centralité d'Antananarivo en fonctionnant avec ce qu'on appelait à l'époque une administration indigène qui a été captée dans le système colonial et qui du coup a amalgamé une partie des élites des élites malgaches qui ont pu aussi participer de cette situation coloniale qui était celle du gouvernement de Madagascar indépendance qu'on appelait à l'époque comme ça.
Quel type de colonisation la France met-elle en œuvre à Madagascar? Comment la décrire en quelques mots?
C'est tout d'abord une conquête qui a été extrêmement violente, dont on n'a pas encore mesuré pleinement l'impact, en fait, hein, dans la société. On n'a pas idée, par exemple, du nombre de morts occasionnés par la conquête coloniale de 1895 et de la conquête longue du territoire, parce que de 1995 jusqu'à 1905, on est dans un moment de conquête par la France des régions de Madagascar, et c'est un processus très lent qui se fait par des implantations, un essaimage comme ça de postes avec des systèmes d'alliances aussi avec des monarchies ou des systèmes de reddition. Il y a beaucoup de guerres en fait dans cette période-là.
Est-ce qu'on a des chiffres sur ces violences? Est-ce qu'il y a un consensus historique quant au nombre de morts au cours de ces longues années de conquête?
Non, il n'y a pas vraiment d'estimation parce que les sources, vous voyez, par exemple, moi j'ai longuement travaillé sur les sources du service historique de la défense à Vincennes, les services de l'armée, et on n'a pas, vous voyez, c'est très laconique, les sources militaires sont très rarement factuelles et désignent peu le nombre de victimes, même on a du mal à estimer l'impact économique de long terme de cette période-là.
Après cette conquête et ces violences, comment s'organise pour tirer le fil cette colonisation administrée par la France?
C'est une colonisation qui vise les intérêts économiques de la France. C'est un peu une sorte d'évidence, mais c'est ce qu'on appelle à l'époque le pacte colonial, c'est-à-dire que la Madagascar est censée absorber des productions françaises avec peu de taxes, et Madagascar exporte des productions qui sont des produits bruts en fait majoritairement, qui sont destinés des produits tropicaux destinés au marché français. Voilà, c'est l'organisation coloniale classique qui favorise l'émergence de classes de colons qui ont une emprise sur le territoire malgache. Alors il y a toute une partie, notamment l'est de Madagascar, qui est découpée en grandes parcelles qui sont données à des colons qui développent le café en particulier, voilà, et d'autres et bien d'autres produits de l'agriculture de rente. Voilà.
Si j'opère, Samuel Sanchez, un bond dans l'histoire, on dit généralement, on enseigne même que 1960 signe cette fois-ci l'indépendance malgache. Est-ce que c'est une indépendance véritable? Certains parlent plutôt entre 1960 et 1972, on reviendra sur cette seconde date, d'un protectorat déguisé.
Oui, alors il y a un point quand même important dans ce processus de décolonisation de Madagascar, c'est 1947.
Je voulais y revenir dans un temps suivant quand nous parlerons de la mémoire, mais parlons plutôt de 1960, 1972 et de ce protectorat déguisé, si vous voulez bien.
Et oui, donc 1960 c'est l'indépendance, mais dans le cadre de ce qu'on appelle à l'époque les accords de coopération, donc c'est Madagascar a besoin de cadres pour faire fonctionner l'administration, pour faire fonctionner tous les services, public en particulier, et favoriser le maintien de relations commerciales avec l'ancienne métropole. Et du coup, jusqu'à 1972, on a une économie malgache qui est encore largement tournée vers la métropole. Enfin, vous voyez, je parle même de métropole, parce que finalement, les représentations restent un petit peu à cette époque-là, même si on a un gouvernement de Philibert Tsiranana qui est indépendant, qui essaye de varier quand même les relations internationales, mais qui reste quand même globalement très tourné vers la France.
Et l'enseignement, par ailleurs, se fait en français. Voilà, les Français restent extrêmement présents dans les ministères. Dans le fond, on a l'impression d'une perpétuation du statut colonial.
Tout à fait. Il y a aussi des bases militaires, par exemple à Ivat, ou à côté d'Antananarivo, la base d'aviation. Et puis Diego Suarez, qui est le gros port militaire français dans l'océan Indien. Et donc, en effet, il y a une présence structurelle de la France et aussi des anciennes compagnies coloniales qui sont restées, des grandes compagnies avec du colonat qui est resté également, qui a toujours une position très présente dans la société. Donc c'est contre ça qu'en 72, il y a un mouvement qui vient contester cette organisation, qui vient revendiquer une ce qu'on va appeler une seconde indépendance.
Alors cette seconde indépendance, en résonance par ailleurs avec l'actualité, elle est portée massivement par les jeunes, par les étudiants. Est-ce que ce rapprochement entre 1972 et 2025, il est pertinent? Est-ce que c'est la même jeunesse qui manifeste? Est-ce que c'est la génération Z de l'époque qui, j'allais dire, se révolte?
Je pense un petit peu, parce que c'est des fois, à la fois il y a un côté générationnel, donc là vraiment clairement dans le mouvement actuel, mais c'est le cas également en 72, on a une génération qui souffre d'un manque d'accès à l'emploi. À Madagascar actuellement on a 50% de la population qui a moins de 20 ans quand même. Et un taux de difficulté d'accès à l'emploi qui est dramatique, des infrastructures scolaires qui sont clairement insuffisantes et des infrastructures universitaires qui sont complètement déficientes. Les CTU sont dans un état délabré, c'est vraiment très compliqué pour la jeunesse actuellement, qui partage aussi le destin de l'ensemble de la population. On a un accès à l'électricité qui est vraiment très faible. À Madagascar, il y a seulement un tiers de la population qui a accès à tout ça. Donc les mouvements de la jeunesse y rejoignent aussi un mouvement, je dirais, d'économie morale qu'on retrouve, je pense, dans toute la société malgache. Et en 72, on retrouve déjà un peu cette question, je pense. Alors peut-être qu'à l'époque, il y avait quand même plus un mouvement qui était adossé autour d'idéologies peut-être structurées dans le marxisme en particulier. Voilà, il y avait des discours de contestation qui étaient ancrés dans une culture politique peut-être plus organisé autour de grandes idéologies. Là, on a, si on regarde les chartes qui ont été produites par la Gen Z, c'est vraiment de l'économie morale. C'est vraiment la question de l'accès aux ressources. C'est l'accès à la justice, en fait, et notamment une condamnation morale des élites qui envoient leurs enfants à l'étranger, qui ont des passe-droits, voilà, c'est tout ça qui est et là il y a quand même des gros points de similitude finalement.
Je voudrais Samuel Sanchez qu'on s'intéresse un instant à la mémoire coloniale, à la mémoire de ce long processus que vous avez décrit et qui s'arrête officiellement en 1960, qui s'arrête véritablement en 1972. Quel est justement l'état de cette mémoire coloniale ? Vous avez soulevé tout à l'heure dans notre discussion une date, 1947. Qu'est-ce qui s'est joué durant cette année-là ?
Mais 1947 succède à une période de crise terrible pour Madagascar. C'est la Seconde Guerre mondiale, hein, où en fait simplement l'île a été sous blocus et ça a été une situation épouvantable, notamment dans le monde paysan et notamment et particulièrement dans les zones de grande production comme l'Est de Madagascar. Et donc en 1947, on a deux choses. On a à la fois l'élévation d'un mouvement politique de contestation du système colonial, qui s'incarne dès 46 dans des élections avec des nationalistes qui appartiennent à un parti qu'on appelle le MDRM à l'époque. Et donc il y a une rencontre, je dirais, à la fois d'une structuration de la contestation et puis en même temps un engagement un peu de révolte contre des conditions de vie qui sont insupportables. Et donc ça occasionne une énorme révolte dans tout l'est de Madagascar, qui va être réprimé de manière très brutale par l'armée française et donc les supplétifs et les supplétifs coloniaux et malgaches qui étaient inclus dans l'armée française. Donc ça, c'est un moment 47, c'est pas juste 47, c'est 47 et jusqu'à fin 48. Donc et même bien au-delà encore si on considère la répression politique qui a continué à agir jusqu'à la fin des années 50. Donc en fait, 47, c'est le nom d'un ensemble de répression menée contre le mouvement d'indépendance dans cette époque-là, dans ce qu'on appelle le colonialisme, à cette période de colonialisme tardif. Et donc c'est resté une blessure vraiment dans la société malgache, parce que c'est aussi une période où, comme je l'ai dit, il y a des partisans, donc des malgaches qui étaient dans l'armée française et qui ont participé à la répression. Il y a des camps qui se sont faits. C'est une sorte de guerre civile, en fait. Vous voyez, la décolonisation a produit souvent des guerres civiles donc c'est pour ça, c'est très complexe et ça c'est une blessure au sein même de la société malgache. C'est-à-dire, ça vise, c'est la France, mais c'est aussi une partie de la société malgache qui était plus ou moins proche des milieux de la colonisation.
Le président Emmanuel Macron a proposé au printemps dernier la création d'une commission franco-malgache sur cette année 1947 et les trois qui ont suivi. Est-ce que pour vous, c'est une démarche qui peut permettre d'aboutir à une meilleure connaissance d'abord de ce qui s'est passé et surtout à une forme d'apaisement quant à la mémoire de cette période coloniale ?
Alors, personnellement, je pense que c'est ça serait une très bonne chose, pour la simple et bonne raison que ce serait mettre à l'agenda des ressources à disposition de jeunes chercheuses et chercheurs qui veulent travailler sur ce sujet et qui n'est malheureusement pas encore assez connu et traité. Ces ressources sont nécessaires car nos collègues de Madagascar ne peuvent pas se rendre facilement en France pour lire toutes ces archives qui sont contenues dans les archives publiques françaises, par exemple, et à contrario, les jeunes chercheurs et chercheuses français gagneraient à partir là-bas. Donc pour moi, ça serait une bonne perspective pour la connaissance historique de cette époque-là, et je dirais plus généralement pour l'histoire de la décolonisation française, parce que 47, c'est quand même un moment assez important de cet épisode de décolonisation dans toute au-delà même de l'Afrique, dans tout l'Empire français, en fait.
Est-ce que cet épisode, sa mémoire, est aujourd'hui vivace, vivant, justement, parmi la nouvelle génération, et notamment au sein de cette fameuse génération Z qui prend, en tout cas, le chemin de la révolte depuis le début du mois de septembre ?
Je pense que ça agit pas peut-être directement, mais ça participe d'un ensemble de faits qui sont associés à la mémoire de la colonisation française. Et 47, c'est un énorme morceau vous avez des commémorations régulières, vous avez des stèles à la mémoire de 47 dans beaucoup de villes malgaches. Enfin, voilà, donc c'est quelque chose qui est très présent et je pense que tout le monde, enfin, on gagnerait à travailler. On le fait déjà, mais qu'il y ait des ressources qui soient allouées à ce projet, ça me semble bonne chose.
Un dernier mot sur 1947, vous parliez de brutalité, de violence absolument incommensurable. Est-ce que là, sur ces années-là, on a des chiffres un peu plus précis, justement ?
Oui, alors, en général, il y a un historien qui s'appelait Jean Frémigacci, qui est d'ailleurs décédé cet été, qui disait qu'il avait fait une sorte de décompte, mais peut-on vraiment décompter? Parce que, bon, il avait estimé qu'il y avait plus d'une dizaine de milliers de morts violentes, hein, par l'armée, par la répression militaire française. Mais au-delà, l'impact, il est gigantesque parce que au-delà de la violence de guerre, il y a aussi tous les mouvements de population, les crises qui ont succédé, et ça, c'est des dizaines et des dizaines de milliers de morts. On n'a pas encore tout à fait, on ne sait pas estimer ça, mais c'est énorme.
Merci beaucoup, Samuel Sanchez. Je rappelle que vous êtes maître de conférences en histoire contemporaine à Paris 1, historien spécialiste de Madagascar, de l'océan Indien. Merci beaucoup à celles et ceux qui ont préparé cette émission. Rodi Eken, Bertie Bourdon, Roxane Poulain pour cette seconde partie, Candice Bergeron et Diane Devancey pour cette première partie de Questions du Soir, et sur les deux parties, une réalisatrice, Léa Racine.